France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
Oui, c'est bon.
Pour être très précis, en France, l'olivier est aujourd'hui cultivé depuis Bonifacio, en Corse, jusqu'à Nyons, dans la Drôme, en passant par le Languedoc-Roussillon et bien sûr, la Provence.
Et en fait, il y en a plus de 120 qui sont reconnus en AOP, en Europe. Donc on peut dire grosso modo qu'il y a entre 30 et 40 AOP en Espagne et en Italie, une vingtaine en Grèce et en France, on en compte 9.
La frantouille permet de faire vraiment l'équilibre parfait. C'est pour ça, avec la Louis, on a gagné vraiment même les prix en 2015 de la meilleure huile d'olive italienne. Je ne l'ai dit jamais ça, mais...
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Ça y est, la saison de l'huile d'olive est lancée depuis le début de cet automne. Les campagnes de récolte ont commencé partout autour du bassin méditerranéen, même si on va le voir, il y a pénurie d'olives, la faute à la sécheresse. Résultat, le prix de la bouteille d'olive, d'huile d'olive, va bientôt grimper pour le consommateur. L'avenir de la production oléicole est-elle menacée dans les prochaines années par le réchauffement climatique? C'est une des nombreuses questions qu'on va aborder avec notre invité fil rouge. Alessandra Pierini, bonjour.
Buongiorno.
On vous connaît évidemment comme notre spécialiste de la cucina italiana, mais vous êtes plus largement une grande experte reconnue dans le monde de l'huile d'olive. Vous avez participé à de nombreux jurys de dégustation. On a voyagé ensemble dans le nord du Latium, au cœur du domaine Le Amantine, où nous avons rencontré Marina Gioacchini, la maîtresse des lieux dont les huiles d'olive ont été, on l'entendait, multi-récompensées. Nos reportages dans un instant au cœur de la récolte des olives, de l'arbre jusqu'à la bouteille où naît le miracle de l'huile nouvelle. Et dans la deuxième partie de cette émission, on s'intéressera aussi aux huiles d'olive françaises que vous connaissez très bien aussi, Alessandra.
Ah oui, bien sûr, j'adore d'ailleurs aussi les huiles d'olive du sud de la France.
Du côté de la Provence, d'Aix-en-Provence, également de la Corse, et on va aussi goûter quelques-unes de vos recettes. Il nous accompagne jusqu'à midi dans cette émission notre chroniqueur cuisinier Jean-Mathieu Christol et notre chroniqueur vin Antoine Gerbel. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Jean.
Oui, c'est une histoire d'amour aujourd'hui dont je vais vous parler, celle du gluten et du gras, celle de l'huile d'olive et du pain qui l'absorbe.
Ah, intéressant, relation intime hein, entre le pain et l'huile d'olive en effet, Antoine.
Entre l'huile d'olive et le vin, il y a bien des ponts.
Oui.
Devinez vers quel célèbre pont, un indice, il enjambe le Gardon, nous dirigeons-nous.
Ah, j'ai ma petite idée. Envoyez-nous vos questions sur l'huile d'olive sur notre mail onvadéguster@radiofrance.com ou sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter et retrouvez toutes nos émissions en ligne avec leur contenu, adresse, chronique, recette, info pratique. Tout ça c'est sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Bonjour, je suis Marina Gioacchini. Bienvenue à Le Amantine, notre domaine oléicole. On se trouve tout au nord du Latium, dans une région magnifique qui s'appelle La Touche et qui est située entre les lacs de Bolsena, les plus grands lacs d'origine volcanique, et la mer Tyrrhénienne. On cultive 2000 oliviers, des trois variétés, dont une autochtone, la Caninese, et les autres variétés, il y en a une de Toscane qui s'appelle Frantoio, avec laquelle on fait une huile d'olive extra-vierge qui s'appelle Louis, dédiée à mon père, qui a soigné ses domaines et qui me l'a transmis en 2014. Et la troisième variété, c'est l'Ecino, une variété qu'on retrouve un peu dans l'Italie centrale et aussi dans le sud de l'Italie. On est en train de marcher au milieu de notre verger. En fait, quand j'ai besoin d'un moment de tranquillité, d'apaisement, je viens ici. Parce que quand mon père a décidé de me transmettre ses domaines, c'était quelque chose qui m'a demandé beaucoup d'efforts, parce que j'habite Paris, mais j'habite aussi ici. Et je connaissais pas grand-chose en agriculture. Mais quand on transmet des arbres ou une oliveraie, c'est pas comme transmettre un bien matériel, parce que c'est beaucoup plus que ça.
C'est un patrimoine vivant.
C'est un patrimoine vivant.
Quel âge ont les oliviers qui nous entourent? Ils ont l'air assez vieux.
Alors, les premiers ont été plantés de variétés autochtones en 1936, quand mon grand-père Sante a acheté les domaines. Les autres ont été plantés par mon père, qui était un passionné d'huile d'olive. Il a commencé parce qu'il désirait avoir l'huile per casa. Il n'a jamais pensé au commerce, mais un jour il m'a dit, là on commence à en avoir beaucoup, on fait des cadeaux, et ensuite j'ai commencé à la proposer à des amis à Paris, et c'est comme ça qu'elle a fait tache d'huile, si on peut le dire.
Donc, allez voir de plus près ces olives.
Absolument.
Elles sont mûres, là?
Elles sont au moment de la véraison. Les olives, donc, sont vertes avec une petite pointe aubergine.
Et ça, c'est un signe de maturité?
Voilà, c'est un signe, c'est le bon moment, est arrivé. Parce qu'on cherche aussi une huile très riche en polyphénol. Et donc, plus l'olive est verte, moins de quantité dans le strater, au moulin, mais plus de qualité, plus de parfum.
Comment on arrive à cette belle olive d'une grande qualité qui donnera un grand cru d'huile d'olive?
Il y a des personnes très compétentes, qui, donc un agronome. Il y a des personnes qui sont sur le terrain tout le temps, qui soignent et qui taillent les oliviers au mois de mars, avril. Ici, c'est la taille vaso policonico. En fait, si vous regardez les plantes, ils ont la forme d'un vase au milieu,
ah oui.
Les branches qui partent, pas beaucoup, afin que l'air et le soleil rentrent à l'intérieur.
Et ça, pour la santé de l'arbre, c'est très important.
C'est fondamental.
Vous arrivez à vous passer de chimie pour faire prospérer vos arbres?
Absolument. Parce que l'huile, c'est l'huile que nous, moi, mes enfants, mes amis, on mange à longueur de journée.
Donc que des choses naturelles.
Que des choses naturelles.
Non. Et en termes de quantité d'olives, cette année, c'est quand même un bon cru?
Alors, pour nous, oui. Mais ici, ce qui est très positif dans notre domaine, est que tous les après-midi, parce que la mer est juste à 20 km, il y a un vent thermique, le vent de la mer qui s'élève et qui permet vraiment un nettoyage de l'air. Et ça, c'est très important.
Vous êtes en pleine récolte en ce moment?
On a commencé il y a 2 jours. Les débuts de chaque récolte est très mouvementé parce qu'il y a toujours des problèmes à résoudre. Voilà, je suis tellement heureuse d'être là.
Et un peu stressée aussi?
Pas mal stressé.
On peut aller voir les équipes de plus près pour voir comment ça se passe?
Avec joie. C'est parce qu'ils sont eux, en fait, qui font les gros boulots.
C'est un petit Éden, une oasis de biodiversité qu'on a eu la chance de visiter à Tuscania, Lea Mantine et de Marina Gioacchini. On est donc dans le Latium, à 100 km au nord de Rome, Alessandra Pierini, dans une micro-région, la Tuscia, qui est vraiment un terroir historique en Italie de l'huile d'olive.
Oui, oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est aussi en plus le terroir, vraiment le berceau d'une civilisation pré-romaine qui est celle des Étrusques.
Et oui.
Et d'ailleurs, le nom latin des Étrusques, c'est Tuscia, et qui ont bien donné
le nom de la région
et Tuscania, donc la ville principale.
Mm-hmm.
Et c'est une région, on pourrait un petit peu la définir comme le Périgord italien, donc qui est pleine d'une terre de truffes, de châtaignes, de noix, de noisettes. Donc,
de champignons aussi.
De champignons, donc avec un terroir très riche, et bien sûr avec tous ces oliviers, en plus une grosse production d'huile d'olive.
Il y a de l'huile d'olive partout sur la botte italienne, on peut dire que l'Italie est un acteur de premier plan dans la filière oléicole de Méditerranée.
Mais bien sûr. L'huile d'olive occupe une place très importante en Italie, aussi bien sur le plan culturel que sur le plan culinaire.
Mm-hmm.
Si l'Italie est quand même un peu loin derrière l'Espagne pour la production d'huile d'olive, elle l'emporte par contre par sa grande diversité de ses terroirs et pour le nombre de variétés d'olives cultivées. Elle en compte au moins 500 variétés.
500 variétés.
Dont il y en a au moins 90 qui sont en fait celles les plus courantes, vraiment utilisées de façon la plus courante.
Mm-hmm.
Et la France est quand même très bien placée aussi, hein. Il y a environ un patrimoine de 200 anciennes variétés, dont il y en a une centaine de répertoriées. Donc,
on va en parler de la France justement dans la deuxième partie de cette émission. On commençait à évoquer dans ce reportage en compagnie de Marina Gioacchini la crise de l'huile d'olive, car il faut poser des mots sur une réalité. Il suffit de lire la presse pour constater que cette année la production d'huile d'olive est vraiment catastrophique. En Grèce, le prix de l'huile d'olive s'envole, les consommateurs s'affolent, écrit Le Monde. L'envolée des prix de l'huile d'olive alarme les Espagnols. Le Maroc limite l'exportation de son huile d'olive pour enrayer la hausse des prix. Bref, en Grèce, en Espagne, en Italie, au Maghreb, la production d'huile d'olive pour la campagne 2023-2024 est en chute. Grave pénurie en Espagne, qui est quand même le premier producteur mondial, à cause de ces fameux facteurs climatiques, chaleurs extrêmes, sécheresses, surtout à des moments clés du cycle de l'olivier, et notamment au moment de la floraison.
Absolument. Ce qui est inquiétant aussi, c'est parce que l'olivier est un arbre méditerranéen que normalement est adapté donc à toutes ces fortes chaleurs.
Y compris à des à des aléas extrêmes, puisqu'on voit d'ailleurs que dans tout le bassin méditerranéen, il existe des oliviers millénaires, preuve que ces arbres ont survécu à de nombreux aléas climatiques.
Bien sûr, parce que ça, c'est vraiment grâce à son système racinaire qui est adapté et à la régulation de son métabolisme. Donc, il a en fait une véritable capacité à absorber encore de l'eau là où les autres espèces fruitières flétrissent. Mais en cas de sécheresse, bien sûr, l'olivier réduit donc son activité pour survivre lui-même. Et donc, il ne produit plus de pousses ni de bourgeons. Et donc, il n'y aura pas d'olive pour la récolte et donc pas d'huile d'olive.
Mais alors, est-ce que c'est de l'ordre de la conjoncture ou est-ce que c'est structurel en clair? Est-ce qu'on peut tirer de cette crise de la production cette année, hein, la campagne c'est en ce moment, ça a commencé au début de l'automne et ça se poursuit parfois jusqu'au mois d'hiver, hein, janvier, février. Est-ce que l'impact du dérèglement climatique sur la filière oléicole en Méditerranée est clairement identifié et en clair, est-ce que notre production d'huile d'olive en Méditerranée est menacée?
La production est vraiment menacée, de toute façon, si on continue comme ça. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de scientifiques qui se penchent sur la question. Il y a différentes solutions. On n'a pas encore vraiment trouvé la bonne. D'un côté, on pourrait envisager donc de planter des oliviers dans ces régions qui sont plus au nord et qui vont être réchauffées par le nouveau climat. Des régions qu'avant n'étaient pas du tout favorables à sa culture.
Vous êtes en train de nous dire que bientôt on trouvera des oliviers au nord de l'Italie et que même en France, la limite de l'olivier va migrer vers le nord.
D'ailleurs, par exemple, la production en Italie, donc l'année dernière, la production du centre du nord de l'Italie était assez favorable et par contre, elle était à moins 50% dans le sud de l'Italie où normalement on produit énormément d'huile d'olive. Et donc, par contre, la disparition de l'olivier pourrait avoir des conséquences vraiment graves sur la biodiversité et bien sûr sur l'économie locale. De plus, l'olivier joue un rôle assez crucial dans la prévention de l'érosion des sols et de la conservation de l'eau. Et son système de racines aide le sol à se stabiliser et à améliorer sa structure, favorisant donc l'infiltration de l'eau et la conservation des nutriments. Donc on pourrait penser, envisager vraiment d'une façon vraiment très maîtrisée et en faisant très attention au maximum à l'environnement, de arroser vraiment avec un goutte à goutte.
Ah, vous lâchez le mot qui fâche, l'irrigation, qui est parfois contestée parce qu'évidemment, arroser des oliviers lorsque parfois on est dans des régions où l'eau vient à manquer pour abreuver même les populations, c'est compliqué comme débat.
Mais tout à fait. De toute façon, il faudra vraiment voir tout le contexte qui soit vraiment favorable. Mais éventuellement, une petite irrigation, donc un goutte à goutte, à deux moments vraiment très particuliers dans l'année. Donc parce que surtout, l'olivier, il craint. D'ailleurs, s'il est trop arrosé, mais il y a deux moments de l'année, c'est-à-dire celui de février-mars, quand il commence le terrain, il dépasse les 12 degrés et l'olivier commence à pousser. C'est à ce moment-là que s'il manque d'eau, il ne fait que des fleurs mâles et donc il ne fera pas d'olives en automne. Et puis, selon les variétés, entre le mois de mai et le mois d'août, il y a le moment où il y a le durcissement du noyau. À ce moment-là, l'olivier fait bien deux choses. Il fait grossir l'olive d'un côté et il fait le bois de l'autre. C'est-à-dire, il fabrique les rameaux qui vont porter les olives. Et donc, cette année, en 2023, par exemple, dans le sud de la France, il a bien plu, surtout dans les Bouches-du-Rhône, au printemps. Donc, les oléiculteurs, ils sont pratiquement sûrs qu'en 2024, on est assez favorable, donc, pour une bonne production d'huile d'olive.
Et il y a quand même des situations contrastées, car il y a des régions ou des micro-régions de Méditerranée où les récoltes sont particulièrement abondantes. C'est le cas du domaine qu'on a visité, les Amantines. C'est un peu un contre-exemple parce que la récolte y a été de grande qualité et elle a été abondante cette année.
Abondante. Et d'ailleurs, Marine, elle a été énormément sollicitée par d'autres producteurs des régions environnantes, surtout le Molise, le Nord du Latium et l'Ombrie, qui manquaient absolument vraiment d'olive. olives et ils auraient bien voulu lui acheter des olives. Mais bon, Marine, elle n'a pas une énorme production, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de producteurs qui peuvent se réjouir en fait de cette récolte.
Derrière la console, Laurent Thomas et Nicolas Delmas, Fabrice Rivaud pour la programmation et la préparation de l'émission et Djoubaka pour la programmation musicale. On va se retrouver justement dans un instant au cœur des oliviers, de l'arbre jusqu'à la fabrication de l'huile nouvelle. On est en pleine récolte dans le village de Tuscania. Et ça se passe juste après un titre qui va vous plaire, Alessandra Pierini.
Bien sûr, c'est Il Regno Animale de Andrea Laszlo De Simone, qui est la bande originale du film Le Règne Animal.
Un film qui est actuellement sur nos écrans. Vous êtes bien sur France Inter.
Vorrei volare, dimenticare, ricominciare in seno al vento. Tornare per un momento nel più profondo regno animale.
Les ouvriers sont au travail là.
Là, on est vraiment en pleine récolte. C'est une équipe avec qui je travaille tous les ans, des jeunes Sénégalais. Tout est fait à la main. Il n'y a pas des machines qui secouent les arbres et qui abîment les arbres. Et donc, on utilise des râteaux vibreurs. Vous voyez, donc c'est beau, c'est ça.
Donc, on imagine des grands manches qui sont reliés à un moteur. Et ensuite, il y a comme des peignes qui secouent délicatement. Hein.
Absolument.
Les branches de l'olivier.
Les olives tombent par terre.
Il y a un filet, hein. Pour faire 10 hectares pour la récolte, ça s'étale sur combien de temps ?
Ça peut durer un bon mois avec 5 personnes sur place. Là, on est à 5 mètres du moulin. Les olives arrivent, elles sont pressées tout de suite, les jus extraits tout de suite. En fait, ici, chez nous, on dit qu'ils mangent à l'olio. C'est un jus de fruits et plein d'amour.
On dirait que c'est les mêmes gestes que les pêcheurs, en fait,
oui, exactement.
Qui ramènent le poisson. Là, il utilise un râteau pour enlever d'autres branchages.
Voilà, tout ce qu'on peut retirer sur place, c'est du travail à moins. Le but est que les olives arrivent les plus propres possibles au moulin. Donc là, vous voyez, donc on a ramassé toutes les olives au milieu du filet. Et là, on les met dans des caisses qui font entre 20 et 25 kilos.
Vous voyez. Puis, on voit qu'ils saisissent les olives de manière très délicate.
Très délicate.
C'est un fruit fragile.
Mais oui, c'est très fragile parce qu'il faut qu'elle arrive saine au moulin.
Donc on va aller, c'est ça, hein, dans la maison pour voir comment ça se passe, l'extraction, et comment on obtient ce jus de fruits, ce jus d'olive.
Absolument.
Ecco, adesso stiamo arrivando al frantoio.
Nous arrivons au moulin, en français.
Voilà, on arrive, au rez-de-chaussée de notre maison. Il y a cet extracteur où vous avez vu, les olives sont pesées d'abord. Ensuite, elles sont dépayées, ensuite lavées. Ensuite, elles arrivent dans des cuves en acier. Il n'y a pas du tout d'oxydation, en fait. Et le malaxage, maximum 10 minutes, qui permet vraiment à l'olive de garder tous ses parfums. Et ensuite, il y a la centrifugeuse. On sépare l'eau de l'huile.
Et donc, cette huile qui coule, c'est vraiment...
L'huile de l'olive qui est extraite à 24-25 degrés. Extra virgin, un olio qui sort de la machine à moins de 27 degrés.
C'est pour ça qu'on dit aussi en français extraction à froid.
Absolument.
On peut la goûter, cette huile nouvelle qui coule.
Avec joie, avec grande joie.
Là, on arrive dans la cuisine pour déguster cette huile nouvelle.
Donc là, on va déguster une huile qui est vraiment le jus de l'olive avec tous ses parfums.
Mais on dirait une espèce de verre bouteille assez fluorescent.
Ensuite, au bout de quelques jours, ce verre intense va un peu décanter. Vous voyez la différence de couleur entre une huile non filtrée qui sort de la machine et lui qui est déjà filtré, parce que nous, on filtre immédiatement. Si on ne filtre pas, ces petits dépôts du jus des fruits, comme une orange que vous voyez, ça va produire des petites particelles qu'au fil des mois peuvent un peu rendre l'huile moins pure. Alors, c'est la variété Lecchino. C'est celle qui mûrit le plus tôt par rapport aux autres variétés Caninese et Frantoio. Première chose, on l'amène au nez. D'ailleurs, on dit un peu comme le vin.
Presque gazon coupé.
Si dit que l'herbe fresca tagliata. Et ensuite, on passe à la vraie dégustation. On ne l'avale pas. Et...
Vous faites une drôle de grimace.
Oui. Parce qu'en fait, une fois qu'on a mis l'huile dans la bouche, on laisse envelopper tous les palais et on fait rentrer l'air sur les côtés. Ce qu'on appelle è un procedimento che in italiano si chiama strippaggio, che le papilles gustatives en fait absorbent cette amertume qui est la première sensation dans la bouche. Ensuite, une fois avalée, on a la sensation du piquant. Une huile d'olive réussie est celle qui est équilibrée, c'est-à-dire que l'amertume et les piquants dans la gorge ne se superposent pas.
Ça veut dire quoi, le fait que ça pique, l'huile d'olive?
C'est la variété tout d'abord, et après c'est aussi la richesse en polyphénol. Et c'est aussi que l'huile d'olive est fraîche, du champ jusqu'à la mise en bouteille, tout à fait ici. Parce que l'olio permet de faire découvrir un territoire. C'est un produit, bien sûr, du terroir, mais c'est un produit aussi qui invite au partage, à la condivision. Vous voyez, là, on a quelques produits du potager, on a l'huile d'olive, du bon pain, on est heureux. Hein?
Le miracle de l'huile nouvelle, l'huile fraîchement pressée qui sort du moulin. D'ailleurs, en italien, Alessandra Pierini, est-ce qu'on dit olio novello ou olio nuovo?
Bah écoutez, pour vous faire plaisir, on dit les deux.
Ah bon?
Nuovo novello.
Ah bah je suis rassuré.
On peut dire les deux.
Et on a sous un gobelet un élixir impressionnant, hein, sous nos micros, Jean et Antoine. Les Amantine et cuvée Louis. Fruits et verts, c'est de l'huile nouvelle qui a été pressée il y a quelques jours, Alessandra Pierini.
Une petite dizaine de jours, hein, à la fin de la campagne de récolte de l'Amantine, vers le 6 novembre.
Récolte 2023 avec le cépage, j'allais dire, la variété d'olivier Frantoio. Qu'est-ce que vous en pensez, Antoine?
Déjà, la couleur est impressionnante. Hein, l'impression que c'est un jus de pistache et de verveine.
Oui, c'est ça.
Avec bien évidemment la transparence en plus, la brillance en plus. On a entendu dans le son, vraiment ça se déguste exactement comme du vin. Hein, c'est-à-dire qu'il faut en mettre une toute petite lampée en bouche et puis...
Faire rentrer un peu d'air.
Et à ce moment-là, ben moi, je m'attends toujours à quelque chose de plus ardent dans les huiles d'olive très jeunes, hein, parce qu'il y en a des très poivrées.
Je sais pas ce qu'il vaut.
J'ai connu plus fort que ça.
Parce que là, quand même, ça déblaye. Hein,
ça gratouille la gorge, quand même.
Ça gratouille, mais voilà, ça gratouille finement. C'est un peu comme dans la famille.
Tousser, d'ailleurs.
C'est un peu comme dans la famille des poivres. Quand vous tombez sur un poivre séché, il vous pique. Et quand un poivre frais, là, il y a un côté poivre vert, d'ailleurs. Moi, je trouve dans cette secteur, mais ce côté le velouté, et le parfum. Je pense que on peut faire un parallèle avec le vin nouveau. Hein, cette semaine sort le Beaujolais nouveau, la semaine prochaine, vous voyez, hein, comme Beaujolais nouveau, Beaujolais primeur, huile primeur aussi, et on a ce côté éclatant de fruits dans les deux.
Parce que soyons clairs, l'huile nouvelle n'est pas une huile à part.
Absolument pas.
Et d'ailleurs, il n'y a pas de réglementation pour l'huile nouvelle.
Non, bien sûr. Toutes les huiles qui viennent d'être pressées, ce sont des huiles nouvelles, donc des huiles fraîches. Il n'y a aucune législation, ni réglementation.
Mais alors, si on veut se procurer de l'huile nouvelle, comment on peut la choisir si elle n'est pas encadrée par des règles?
Un peu compliqué, bien sûr, parce qu'il n'y a que certains producteurs qui le marquent, qui l'écrivent, donc que c'est la nouvelle récolte 2023 et 2024 sur la bouteille. Sinon, c'est un petit peu difficile de le savoir.
Mais alors, elle gratte, n'en déplaise à Antoine, elle gratte quand même un peu la gorge.
Oh oui.
Souvent, on a tendance à prendre ça pour un défaut.
Ah,
quand on
tout.
Dit c'est ardent, c'est piquant dans la gorge, ça chauffe, ça gratouille, parfois ça fait même tousser dans les cas un peu extrêmes. C'est une qualité de l'huile nouvelle et de l'huile verte en général.
Ah, absolument, ça fait vraiment partie l'amer et le piquant, mais qu'on appelle donc le piquant ardence dans l'huile d'olive, ça fait vraiment partie des attributs positifs. Et en plus, chacun a sa perception un petit peu différente. Et donc, ce piquant, quand ce poivré, c'est la seule sensation tactile, sensitive que nous avons de l'huile d'olive juste dans la gorge.
Et il y a un autre goût de l'huile d'olive qui prête souvent à confusion, qui est même un peu ambigu, c'est l'acidité. Une huile de qualité n'est pas forcément acide, bien au contraire.
Absolument. Donc l'acidité, déjà, c'est la caractéristique d'une huile d'olive déjà extra vierge, une acidité donc très basse.
Mmh.
L'huile d'olive qu'on vient goûter de Marina, elle a une acidité de 0,07%.
Imaginez que c'est très faible.
Et pour qu'une huile d'olive soit classée vraiment extra vierge, elle doit avoir une acidité au maximum 0,8%.
Mmh.
Donc, elle a encore, bien sûr, beaucoup de marge. Et donc, c'est là que l'huile sera très chargée en nutriments, en vitamines et en polyphénols. Et ça sera une huile d'olive qui va se garder vraiment très longtemps.
En revanche, on va s'orienter vers des cuvées françaises avec des fruités mûrs et des fruités noirs.
Oui.
Et plus l'huile d'olive est mûre, plus son acidité va grimper. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure.
Absolument.
C'est ça qui est passionnant.
On va gagner d'ailleurs en rondeur et en douceur.
Et on va se retrouver tout à l'heure, un peu plus tard, pour un fabuleux dessert de Marina Gioacchini à base d'huile d'olive nouvelle qui va venir arroser una ricotta, mais on n'en dit pas plus. Tout de suite, explorons les relations incestueuses entre l'huile d'olive et le pain avec notre chroniqueur cuisinier Jean-Mata Cristol.
France Inter. On va déguster.
Dans certains restaurants, il est devenu d'usage de proposer du beurre avant ou après avoir commandé.
Mm-hmm.
Le summum du chic étant d'avoir un beurrier personnalisé ou encore le sceau ou les initiales de l'établissement. Bien sûr, pas de bon beurre sans bon pain, souvent fait maison aussi. D'après Giorgio Locatelli, célèbre chef sicilien surtout connu outre-Manche, c'est au milieu des années 80 que l'huile d'olive trouve sa place sur les tables britanniques à la place du beurre, au motif qu'elle avait plus de relief gustatif. C'est à cette occasion que les Anglais découvrent des huiles typées comme l'huile toscane, un peu poivrée, légèrement sulfurique. Le temps passant, ce rituel de la mouillette à l'huile d'olive trouve autant sa place que le pain beurré sur les tables des restaurants français avec des nuances. Mettons l'accent sur la qualité du pain, qui peut être fait maison, ou de l'huile spécialement sélectionnée pour l'occasion. Si le pain d'accueil est plutôt neutre, c'est qu'on le destine à être amélioré par une huile plutôt relevée.
Donc l'idée, ce serait qu'une huile d'olive toscane très goûteuse, par exemple, irait mieux avec le pain toscan, qui lui, est quand même un peu neutre, sous-assaisonné.
Alors oui, je parle sous le haut patronage d'Alessandra, car les Toscans ont gardé l'habitude, semble-t-il, depuis le XIIe siècle, et pour des raisons que les historiens discutent encore, de ne pas saler leur pâte à pain. Pour autant, la complémentarité de la pâte à pain sous toutes ses formes et de l'huile de toutes origines se retrouve de part et d'autre de la frontière, avec d'un côté la pompe à huile, le gibassier, la fougasse, et de l'autre la focaccia, avec toutes ses variantes locales, la sroscia ou la scacciata. C'est bon pour l'accent, je suis bien?
Oh, super, parfait.
Comparer l'Italie et la France en matière de panification, c'est comme comparer la baguette d'un côté des Alpes et la pizza de l'autre côté, ou encore comparer le beurre et l'huile d'olive d'après une frontière artificielle linguistique entre la langue d'oc et la langue d'oil. Même la cuisinière provençale ne se risque pas et indique, je cite, « Quand nous disons dans certaines recettes d'employer du saindoux, du beurre ou de l'huile, c'est qu'on peut appliquer indifféremment l'un ou l'autre. Nous supposons du reste qu'il peut se trouver des personnes ayant des goûts particuliers là-dessus. »
Alors revenons Jean, sur l'histoire d'amour entre l'huile d'olive et le pain.
Oui, rien de mieux donc que de commencer son repas ou de faire son apéro avec de l'huile d'olive et du pain. Comme le thème du jour était l'huile d'olive en France et en Italie, et comme je me suis particulièrement intéressé à la panification, je vous propose aujourd'hui de faire une focaccia en adaptant une recette traditionnelle de pompe à huile, c'est-à-dire une spécialité qui, avant d'être un des 13 desserts de la tradition provençale, aurait été un pain particulièrement levé, destiné à absorber le reste d'huile produite par les grignons dans le fond des cuves. Je vous explique tout ça. Donc, c'est tout simple, on part sur
Déjà, c'est bon.
Oui, c'est bon.
Ce qui est un bon point.
Délicieux, très parfumé.
Et je voyais Alessandra Pirini faire des sourires.
Ah oui, bien sûr. Pour la focaccia, si je souris avec en dégustant une focaccia pas italienne, c'est que c'est délicieux.
Pareil gagné, Jean-Marie Gagnon. Ouais. Un point pour vous.
Un point. Super. Merci beaucoup. Donc, c'est une méthode que je recommande chez vous aussi pour activer un petit peu la fermentation. On fait d'abord un levain-levure, c'est-à-dire qu'on va prélever une partie de la farine et de l'eau qui vont dans la totalité de la recette pour activer la levure fraîche. Mm-hmm. On peut mettre une pincée de sucre. Tout le détail est sur le site internet, tout le détail de la recette. Ensuite, une fois qu'on a fait pousser ça un premier moment, on va pouvoir ajouter le reste. Mais avant, pour reprendre la méthode de la pompe à huile, ce levain-levure, on va lui faire faire la planche, c'est-à-dire qu'on va le mettre dans un bol d'eau pas trop froide, pas de l'eau du frigo, de l'eau du robinet, et on attend que le levain remonte à la surface de l'eau, ce qui signifierait, donc d'après les grands fabricants, d'après les grands amateurs de pompe à huile, ce qui signifierait que le levain est bon à être utilisé pour ensuite faire le reste de la pompe à huile. Donc moi, j'ai fait le même procédé, simplement, j'ai appliqué une recette de Federico Turri qui m'a permis d'utiliser les pesées de cette recette-là.
D'accord.
Donc une fois que le levain-levure a fini de barboter, on mélange avec le reste d'eau et de farine. On va pouvoir ajouter ensuite une petite quantité d'huile. On refait pousser 4 heures à température ambiante. Donc celle que vous mangez aujourd'hui, moi je l'ai fait pousser toute la nuit au frigo, ce qui revient à peu près au même. Dites pas ça au boulanger, mais c'est pour vous, chez vous, ça fera presque pareil. Et ensuite, on pétrit jusqu'à avoir un mélange à peu près homogène. Moi, j'ai rajouté un petit peu d'origan dedans. Parce
C'est ça qui parfume bien.
Oui, c'est ça, oui. Voilà.
Très bien.
Une petite note de garrigue.
C'est ça. Et ensuite, je la cuis au maximum de mon four, 240-250 degrés. Et à la sortie du four, on peut rajouter, avant ou après la sortie du four, on peut rajouter une saumure qui est faite d'eau, de sel et d'huile d'olive pour rajouter un petit peu de sel, même si on en a déjà dans la pâte. Et surtout pour rajouter de l'huile, parce que c'est ça qui est bon.
Elle est bien épongée, entre guillemets, mais c'est vraiment, vraiment délicieux. Elle est à la fois moelleuse.
Très, très bonne. Très parfumée.
Très imbibée d'huile d'olive.
Croquante au-dessus et après très moelleuse à l'intérieur.
On peut même rajouter un peu d'olio nuovo, non?
Alors, pour faire le pont avec ce dont on va parler ensuite, j'ai utilisé une huile d'olive française qui vient de l'Isle-sur-Sorgue.
Et ben voilà. Transition toute faite vers les huiles d'olive françaises qu'on va aborder dans un instant avec Alessandra Pierini qui les connaît aussi très bien. Vous n'êtes pas italo-centré sur l'huile d'olive.
Ah non, absolument.
Vous avez vraiment un spectre et un regard tout à fait panoramique sur la Méditerranée.
Bien sûr, j'aime aussi les huiles de Grèce et j'aime aussi les huiles espagnoles, bien sûr.
Et puis on va aussi cuisiner une merveilleuse petite recette avec un fruit de saison et une huile d'olive française.
Les flammes se croisent et se rassurent.
feu du duo montréalais BB Club. C'est chouette, hein. Moi, j'aime beaucoup ce titre qui donne la pêche en ce dimanche matin. Tout sur l'huile d'olive, c'est notre menu du dimanche.
On va déguster. Sur France Inter.
Plein de réactions évidemment de nos auditeurs et de nos auditrices sur le mail de l'émission, sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter, Jean-Matin Christol.
Oui, on a notamment Hubert qui nous parle des oliviers français et qui voudrait nous signaler le trafic d'huile d'olive aux étiquettes trompeuses.
Alors ça revient souvent. Il y a beaucoup de questions un peu anxiogènes sur ce sujet, d'autant que l'huile d'olive en France est quand même très consommée. Simplement, ça vient effectivement d'un peu partout. Si on regarde les chiffres, d'où vient l'huile d'olive consommé par les Français, c'est assez éclaté. Hein.
Assez, bien sûr. L'Espagne, c'est de l'Espagne surtout, c'est le plus grand fournisseur. C'est au moins 65%. Et il faut dire aussi que c'est grâce à l'Espagne, c'est jusque-là, puisque elle produit 40% de la production mondiale. C'est grâce à elle et à ses stocks si nous avons un peu de réserve encore d'huile d'olive, parce qu'en Espagne, on consomme aussi de l'excellente huile d'olive. Après, ça vient d'Italie, le 22% consommé en France, un peu de Tunisie, de Portugal, de Belgique, de Grèce, de Maroc, c'est un peu plus anecdotique, environ 1%.
D'accord. On évoquait ces questions d'étiquetage, effectivement, voire ces petites manigances relevées notamment sur le site de la DGCCRF, Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Il est mentionné que la qualité et l'étiquetage de l'huile d'olive comportent beaucoup d'anomalies et un taux d'anomalies bien trop élevé. Un tiers, je dis bien un tiers, un établissement sur trois qui a été contrôlé présente des anomalies, défaut d'étiquetage concernant l'origine de l'huile d'olive, surclassement d'huile d'olive vierge en huile d'olive extra vierge. Vous nous rappelez la différence? Vierge et extra vierge, c'est pas le même produit.
Ah, c'est pas le même produit, mais sont quand même les deux seuls produits naturels qui sont extraites, ces huiles, de la même façon. Mm-hmm. Extra vierge, c'est vraiment la qualité supérieure, un pur jus d'olive, sans aucun défaut. Alors que dans l'olive seulement vierge, il peut y avoir un tout petit défaut qui est, qu'on arrive à détecter uniquement à travers une dégustation du panel professionnel. Mmh. Ou alors l'acidité qui monte entre 0,8% et 2%.
Mais se dire quand même qu'il y a des bouteilles qui font passer encore une fois de l'huile d'olive vierge à l'huile d'olive extra vierge, alors que ce sont deux qualités différentes.
Tout à fait, mais ça c'est que la répression des fraudes et qu'un panel de dégustation qui peut détecter la différence. C'est très difficile qu'un consommateur lambda qui utilise l'huile d'olive à la maison, une consommation familiale, on arrive à le détecter. C'est pour ça que les contrôles, il faut qu'ils soient vraiment très assidus. Et dans tous les cas, au moins, quand on regarde une bouteille d'huile d'olive...
Voilà, j'allais dire comment choisir sa bouteille huile d'olive au rayon huile d'un supermarché, c'est quand même une question vertigineuse.
Alors déjà, si on arrive à privilégier un terroir, donc si on arrive à trouver une huile d'olive AOP, ou au moins une huile où il est indiqué le pays de production, soit la France, soit la Grèce, soit l'Italie, et on essaye, dans la mesure du possible, d'éviter le UE, c'est-à-dire Union européenne, ou hors UE. Donc hors Union européenne, parce que là, il s'agit de mélanges d'huiles d'olive différentes. Donc c'est vraiment très compliqué et difficile de connaître vraiment l'endroit de production.
Et plus on mélange, plus il y a des risques d'entourloupe, évidemment. Alors venons-en à ces belles huiles d'olive françaises, car oui, il y a une tradition oléicole en France, bien entendu, qui remonte à de nombreux siècles, même si seulement 4% de l'huile d'olive que l'on consomme en France et française. On peut dire que c'est une goutte d'eau, ou peut-être une goutte d'huile, au niveau mondial, la production française.
Bien sûr, mais c'est quand même une production de très bonne qualité. Il faut dire que sur 40 000 oléiculteurs, il y a 30 000 oléiculteurs artisanaux, de petits producteurs. Mmh. Il y a quand même 9 AOP en France, donc elles sont toutes situées, bien sûr, dans l'endroit de production qui est le sud-est. Et donc, la plus ancienne AOP, c'est celle de Nyons depuis 2016 avec la variété Tanche. La plus récente, c'est celle du Languedoc qui remonte au juin 2023, donc vraiment toute récente. Par la vallée de Beau-de-Provence, Aix-en-Provence, Nîmes, Nice, l'huile de Corse, l'huile de Haute-Provence, l'AOP de Provence. Donc,
vous n'en avez pas oublié. Et effectivement, la dernière, c'est l'AOP Languedoc, la plus récente depuis le 23 juin 2023, avec une huile d'olive à base d'une variété qu'on aime bien, la Luc.
La Luc, oui.
Absolument.
C'est vraiment de la région.
Vous nous faites goûter une première huile ?
Tout à fait, vous les avez dans les verres.
Donc, on commence par quoi, chère Alessandra ?
On va commencer déjà par l'huile d'olive la plus douce, et on va de l'autre côté de la mer jusqu'en Corse, donc dans le domaine de Daniel Carterade, c'est l'AOP Olio di Corsica. Ce sont donc des olives ramassées à Zilia, en Balagne, à 450 mètres d'altitude, au pied du Monte Grosso, dans le nord-est de la Corse. Donc, on cultive donc des oliviers qui ont plus de 800 ans. Daniel Carterade les a récupérés. C'était des oliviers qui étaient à l'abandon. Et donc, cette huile si particulière, avec cette couleur dorée un petit peu transparente, c'est une huile qui a été récoltée à l'ancienne par chute naturelle.
Alors ça, c'est typique à la Corse. Hein. On attend. Vraiment... D'ailleurs, ça a été un objet dont c'est
de souvent... blague.
Oui. Ils ont la flemme de les ramasser. Alors on les laisse tomber dans le filet.
Les pauvres,
un élixir extraordinaire. Mais il est vrai qu'on attend que ces petites olives bien noires, un peu fripées, tombent.
Bien sûr.
Donc ça veut dire que évidemment le profil aromatique du fruit est totalement différent. Vous le ressentez
dans
le...
C'est très bon. Alors je ne sais pas si
dans cette huile corse,
je trouve ça plus doux, mais ça goûte fruit.
C'est sûr. On cherche
par rapport à la précédente.
Il n'y a plus du tout à ce moment. Donc il n'y a plus du tout d'ardence et de piquant. Et d'ailleurs, cette huile que vous avez dans les verres, elle a été ramassée entre le mois de février, le 11 février et le 21 mars 2023. Donc, c'est une récolte de cette année, mais en fait, de la récolte passée.
Profil aromatique extraordinaire. Un deuxième cru, chère Alessandra.
On va partir à Aix-en-Provence, l'AOP Aix-en-Provence d'olives maturées, bio, du domaine La Michelle, qui est à Auriol, à 30 km de Marseille.
Mmh.
Donc, là, nous avons leur huile d'olive que j'ai vraiment adorée. L'huile qu'on appelle goût à l'ancienne, d'olive maturée.
Alors là, il y a une légère amertume, la couleur est un peu plus verdâtre, Antoine.
Il y a un crémeux, étonnant, c'est-à-dire presque un côté un petit peu lacté doux, c'est régressif comme texture.
Presque de la tapenade liquide.
Oui, c'est ça. Et pour le coup, ça gratouille encore un peu le fond de la gorge.
Alors, ça gratouille le fond de la gorge parce qu'elle vient juste d'être pressée.
Elle est nouvelle.
C'est Nelly, Jean-François et Robin Margier, donc, qui sont les oléiculteurs qui s'occupent donc du domaine de la Michelle depuis 5 générations. Et donc là, ça va gratouiller un petit peu, mais dès que le temps va passer, donc ce petit picotement va un petit peu s'estomper pour laisser la place donc à la rondeur, le goût de pruneau.
Qu'est-ce qui fait ce goût à l'ancienne, en termes de méthode ?
Alors, là, c'est vraiment particulier. Les olives, donc, sont ramassées et sont laissées fermenter volontairement et contrôlées. Donc, et sont stockées et maturées pendant 4 à 8 jours. Et ensuite, l'huile est extraite.
Et enfin, allez... Troisième cru, vous êtes allé vous balader dans tous les terroirs de France.
L'AOC Provence, c'est la cuvée Paradis.
À ne pas confondre, attention, il y a l'AOP Aix-en-Provence et il y a l'AOP Provence plus générale qui recouvre donc une réalité géographique plus large.
Un petit peu plus large et c'est un domaine aussi qu'en plus il se trouve en Haute-Provence. Il produit aussi une AOP Haute-Provence, mais ça c'est la cuvée Paradis. C'est un fruité vert bio du domaine Salvatore, donc de Sophie et Frédéric Pinatel, qui produisent ce fruité avec une variété locale typique, hein, parce que c'est vraiment le terroir réputé pour le fruité vert, avec 20% d'Aglando et 80% de la variété Bouteillon, qui font ce fruité extraordinaire, vraiment avec un goût un peu de banane verte, pomme verte, amande fraîche, feuilles.
Moi, l'amande fraîche, je l'ai, ouais.
Moi, j'ai le vert tout court, j'ai le vert au fond de la gorge, là.
Il y a le côté artichaut cru aussi.
C'est une huile qui a beaucoup de personnalité. On l'imagine sur des poivrons, des artichauts, des anchois, des choux, des poissons gras, des fromages.
Ça, c'est vraiment, vraiment délicieux. Vos trois choix français, 100% français, sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Dans un instant, vous allez utiliser une de ces huiles d'olive pour une petite recette surprise. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on va être au chapitre sucré. Mais on va faire une petite pause par le Gard, qui est un département... Oléicole, on le sait, Nîmes n'est pas très loin, c'est une AOP parmi nos 9 françaises, mais c'est aussi un département viticole, c'est ce qu'on va voir avec Antoine Gerbel.
On va déguster sur France Inter.
Alors merci Alexandra, parce que je pourrais remplacer dans votre discours le terme vigne ou huile, le terme olivier et l'huile d'olive par vigne ou vin. Vous avez parlé des problèmes climatiques, vous avez parlé des problèmes de le chaos de la production actuelle, vous avez parlé d'irrigation. Ce sont exactement les mêmes problèmes que rencontrent les producteurs de vin et les producteurs d'olive. D'ailleurs, souvent, dans le Grand Sud, ils font souvent les deux. Alors, régulièrement à ce micro, je défends l'originalité des blancs de la Méditerranée et du Grand Sud en général, et je souligne, entre autres qualités, leur merveilleuse aptitude à se marier naturellement avec la cuisine à l'huile d'olive. La première de toutes ces qualités, c'est de construire des alliances, des accords autour des amers. Ces fameux amers qu'on redécouvre aujourd'hui en explorant un petit peu plus loin la nature de nos goûts. Car un blanc sudiste, en 2023, ne singe pas l'acidité des blancs du Nord. On ne fait pas des ersatz de Sancerre dans le Sud. On récolte mûres, ces roussanes, ces marsannes, ces vionniers, ces clairettes ou ces grenaches blancs. Et cette maturité a changé immédiatement la nature de ces blancs que les nouveaux amateurs de vin découvrent et sortent un petit peu de ces grands territoires de qualité que sont la Loire, l'Alsace ou la Bourgogne. Alors, dans le Sud, bien évidemment, ces qualités de blanc, on les retrouve en Provence, vous l'avez évoqué, les coteaux d'Aix, très marqués par leur fraîcheur pour des vins du Sud. Il y a aussi Cassis, la pure appellation blanche de Marseille, que nous ne nous trompons pas. Il y a aussi l'explosion des blancs de Corse, on en parle souvent ici.
À base de Vermentino, notamment.
Et puis ce très grand territoire de jeu que sont le Languedoc, le Roussillon et bien sûr le Rhône. Alors le Rhône, eh bien, sur les deux rive du Rhône, on produit des blancs, ça marche très bien, et il y a un territoire qu'il faut découvrir absolument, c'est encore la partie la plus méconnue de la vallée du Rhône, c'est la rive droite du Rhône, et c'est le département du Gard. Très vaste département, le Gard, hein. Plus de 50 000 hectares de vignes. Si je regarde mes statistiques, c'est le quatrième département viticole français, on y produit 7% du vin en France, vous voyez, c'est un gros terrain, et on y produit de tout. Ben, c'est un peu comme l'Assemblée nationale aujourd'hui, vous avez les deux extrêmes. Vous avez des vins hyper industriels, coopératifs, et même dans le bio, puisque le Gard a la plus grosse coopérative de vin bio, et puis à l'autre extrémité, vous avez des fous furieux qui font renaître des cépages oubliés, qui poussent très loin le travail autour de la bio, de la biodynamie, et c'est un peu dans l'entre-deux que j'ai voulu m'arrêter aujourd'hui pour vous faire découvrir un jeune vigneron qui est installé sur la commune de Valguières, que vous connaissez bien.
Oui.
Voilà, puisqu'on est entre Uzès et Tavel. Alors ce territoire-là, il a longtemps produit des rouges assez simples pour les négociants de l'autre rive, qui les assemblaient et qui les vendaient pas cher. Donc la valeur ajoutée de leur territoire a longtemps échappé aux vignerons du Gard. Et aujourd'hui, les propriétés sont difficilement tenues parce que le vin est toujours pas très cher, mais des nouveaux entrants arrivent. Et là, je vous parle d'un jeune vigneron, il a 28 ans seulement, il est déjà installé depuis 2016. Il a fait le choix de s'installer là parce que il s'installe parce qu'on trouve 20 hectares, on va dire aux alentours de 100 000 euros. Pour 80 000 hectares, si vous êtes un néo-vignon, vous trouvez de la vigne, vous trouvez de quoi vinifier. Donc voilà, je lance une perche. Quand les jeunes ont envie ont la passion du vin, allez faire un tour dans le Gard, vous pouvez faire de belles affaires. Et alors notre vigneron, Il s'est formé auprès de son oncle, quelqu'un qui est assez connu, s'appelle Rémy Pouzin, et qui est un œnologue qui a la tendance de faire des vins naturels. Il a aidé beaucoup de vignerons à développer la bouance naturelle. Donc naturellement, notre vigneron, qui s'appelle Laurie de son prénom, avait envie de faire du vin naturel. Il a commencé, il a fait des vins simples au départ. Il s'est loupé, il le reconnaît lui-même, et aujourd'hui, je trouve qu'il arrive à une magnifique, magnifique maturité. Le Petit Oratoire, tous ces vins sous son nom.
C'est donc le nom de son domaine.
C'est le nom du domaine. Voilà, le Petit Oratoire.
À Valguières, dans le Gard.
Voilà, le Petit Oratoire, il a la particularité de, il s'est fait connaître avec des étiquettes un peu loufoques. Cuvée s'appelait Cacatoès, une autre s'appelle Babar is the color, et c'est pas forcément pour faire parler, c'est qu'il essaye de parler surtout à des gens qui ne boivent pas souvent de vin. Il me dit, le vin c'est intimidant, moi je veux cacher l'étiquette, la région, le cépage, je veux qu'on goûte mon vin, et puis qu'on se fasse simplement une opinion sur ce qu'on a dans le verre. Et j'aime cette démarche, c'est très ouvert, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça s'adresse à une nouvelle clientèle qui ne boit pas beaucoup de vin. Je vous rappelle que le vin rouge chez les jeunes consommateurs est en temps chute libre. Laurie Aon, voilà, c'est lui qu'il faut découvrir, avec deux cuvées, un blanc que je vous ai amené qui s'appelle Grat Conil. Si vous parlez couramment l'occitan, Conil, ça devrait vous dire quelque chose, ça veut dire Lapin, exactement. Ah, le Garenne.
Conil, en
italien. Conil, en espagnol. Et vous retrouvez ce gras de conil, 5 cépages qui sont le vionnier, le grenache blanc, la roussanne et la clairette. C'est très texturé, c'est des beaux amers. Je trouve que c'est une dynamique
fraîcheur aussi, hein.
Incroyable.
Beaucoup d'énergie dans un.
Voilà. Et c'est mûr. C'est ça qui est fantastique. Mmh. Et ça, c'est par la viticulture. Il faudrait toute une émission pour expliquer comment faire des vins avec de sensations de fraîcheur sans de hautes acidités. Et je vous ai mis aussi un petit coup de rouge parce que il a fait longtemps des vins de France, comme un peu cette génération, et il revient dans les Côtes du Rhône parce que c'est quand même, il veut défendre aussi la dimension Côtes du Rhône, et il fait aussi des vins accessibles. Je termine sur ça. Le vin flambe, l'inflation est partout, et aussi dans les vins. Et lui, il fait des vins naturels qu'on trouve entre 12 et 15 euros.
Quel cépage pour la cuvée rouge, délicieuse, digeste, bien fruitée, avec des goûts de fruits rouges acidulés?
De vieux gobelets, de grenache et de carignan.
Très bien, c'est vraiment délicieux. Le domaine du Petit Oratoire à Valiguières. Goûtez, découvrez ce domaine qui fait des vins tout à fait naturels. Merci Antoine Gerbel. Cher Alessandra, évidemment, petit tour de main promis avec une merci. Huile d'olive française pour un dessert.
Tout à fait, parce que l'huile d'olive, c'est vraiment un ingrédient qu'il faut utiliser partout. Et donc, il faut profiter de ces beaux fruités mûrs, vraiment typiques du sud de la France, avec des fruits, par exemple. Là, j'ai fait une préparation avec de la poire, légèrement coupée, des zestes d'orange, du jus d'orange, un petit peu de poivre, et j'ai fait griller donc des amandes de Provence que j'ai trouvées au domaine Salvatore à un autre Provence, et assaisonné donc avec l'huile mûrie à l'ancienne du domaine de la Michelle. Ça fait, moi je trouve, ça peut faire un dessert, mais moi je le déguste surtout le matin au petit déjeuner, en complément de céréales. C'est vraiment délicieux.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Assez délicieux, et je pensais à ça, je verrais bien ça sur un fromage blanc. Ou... Non, c'est très très bon.
Tout à fait.
Mais l'huile d'olive au petit déjeuner, c'est ancien finalement. Les Grecs tartinaient de l'huile et de l'ail.
Tout à fait. Même dans le sud de l'Italie, on le faisait beaucoup, et maintenant on le fait un petit peu partout. Oui.
Et au petit déjeuner, parlez-nous d'une recette qu'on a eu l'occasion de déguster. On retourne là en Italie, du côté de Lea Mantine, au nord du Latium, pour une recette fabuleuse à la base de ricotta. Ricotta et huile nouvelle, qu'est-ce qu'on fait avec ?
Oui, c'est vraiment aussi un tour de main. On avait pris de la ricotta de brebis. Marina, elle a assaisonné donc avec son huile nouvelle, de jus de citron, du zeste de citron et une cuillère de sucre roux. Elle a émulsionné tout ça et juste on sert ça au dessert ou aux 4 heures. Juste pour apprécier aussi bien le goût du fromage, mais en même temps le goût bien bien poivré de son huile nouvelle.
Et on a même le droit d'ajouter une petite pincée de cannelle.
De cannelle, oui, c'est Marina, elle l'adore comme ça, cette recette.
La
oui.
recette est la vôtre aussi, hein. Celle bien de Marina sûr. Et la vôtre, sur Alessandra, sont à retrouver sur franceinter.fr, à la page On va déguster. Il y a plein d'auditeurs qui font parler leurs souvenirs avec de l'huile d'olive, cher
oui,
Jean.
Absolument, on a Eva qui nous parle de ses tartines à l'huile d'olive sur laquelle sa grand-mère portugaise mettait du sucre. On a également Anne du Pays Grassois qui nous parle de la saucette, qui sont des morceaux de pain sur lesquels on goûte l'huile nouvelle. Voilà, et sinon dans la catégorie des tout petits producteurs et pour le gag, on a Marcel Briand qui est à Bobigny et qui a ramassé 12 kilos d'olives l'année dernière. Anne en Seine-et-Marne qui, elle, en a ramassé un grand bol. Et on a Rodolphe qui nous parle des oliviers du pays ariégeois, des Pyrénées ariégeoises.
L'huile d'olive fait parler. Un très grand merci pour vos lumières, chère Alessandra. On en a beaucoup appris sur l'huile d'olive en France, en Italie et tout autour du pourtour méditerranéen. Merci beaucoup. La semaine prochaine, on va vous retrouver justement, Alessandra Pierini. Tiens, on va déguster Dresse le Couvert au Festival du Livre Gourmand à Périgueux. Soyez tous les bienvenus pour assister en direct à cette émission. Je recevrai sur la grande scène du Théâtre de Périgueux le chef Olivier Rollinger, parrain de l'événement. Alessandra Pierini et Stéphane Solier, vous allez nous parler aussi d'un livre-événement sur un grand cuisinier italien, Jérôme Gagnès, Elvira Masson et Jennifer Hartsmith. Entrée libre dans les places, dans la limite des places disponibles à dimanche prochain, si vous avez encore faim.